Je me suis demandé, en écoutant les nouvelles de ce matin, s'il était possible encore de parler après tant d'horreur et de violence. Nous vivons dans un monde déchiré, devenu fou, où des assassins en liberté tuent et massacrent des innocents. Et je me disais, je ne serais pas capable de parler aujourd'hui. Et vous non plus, j'imagine, vous vivez ça comme une émotion profonde. Et d'autre part, comme Père Bernard l'a rappelé en commençant, dans ce monde soumis à une violence extrême, devenue folle, nous avons absolument besoin de plus en plus d'un ancrage profond et de retrouver, de partager l'enseignement de l'Église et tous les enseignements spirituels d'ailleurs qui nous mènent vers la profondeur, vers la transformation de nous-mêmes et du monde. Et donc je pense que des lieux comme celui-ci ou d'autres sont très importants, vraiment, pour contrebalancer dans la mesure du possible toute cette violence et cette horreur extrême. Alors je vous propose d'abord de commencer par un petit temps de silence pour que toutes ces victimes et même les bourreaux, leurs assassins, qui sont tous morts, soient aussi présents dans notre prière aujourd'hui. Plus que jamais, il est important de crier « Ô Dieu, viens à notre aide. Seigneur, hâte-toi de nous secourir. » Je vous rappelle, pour ceux qui avaient assisté au partage précédent, que cette merveilleuse, magnifique prière du Notre Père, à laquelle nous sommes trop habitués, comprend deux parties tout à fait distinctes. La première étant un chant de louange. Dans les trois premières phrases, nous demandons au Père de manifester son nom saint, de manifester aussi sa sainteté, sa volonté, et que son royaume advienne sur la terre. Et plutôt que des demandes, ce sont des cris enthousiastes de louange. Et la seconde partie que nous abordons aujourd'hui, par la première des quatre demandes, concerne cette fois les besoins vitaux de l'homme. Le besoin de nourriture, le besoin de pardon, la sauvegarde dans l'épreuve et la délivrance du malin et du mal. Et n'oublions surtout pas que l'attitude fondamentale qui préside à toute cette prière, comme à toute prière d'ailleurs, est l'adoration. Quelles que soient les demandes. Jean Carmignac, qui a écrit un gros livre sur le Notre Père, disait « Dans chaque requête, la voix de l'adoration domine. C'est pour mieux le servir que nous le prions de nous aider. » L'adoration des trois premières demandes chante la gloire de Dieu, notre Père, et l'adoration des quatre dernières demandes plaide la faiblesse de ses enfants de la terre. La demande que nous abordons aujourd'hui est la demande centrale, je dirais, du point de vue géographique des gens dans la prière. Si vous découpez la prière en strophes, la demande de nourriture, du pain substantiel, est exactement au centre de la prière. Et je pense que ce n'est pas un hasard, parce qu'elle est, vous vous en doutez bien, fondamentale, comme sont d'ailleurs fondamentales toutes les autres demandes de cette prière transmise par Jésus lui-même, qui était, je vous le rappelle, sa propre prière. Et selon les époques et selon les églises aussi, cette demande a été exprimée de multiples manières. Je vous en donne quelques-unes que vous connaissez. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain jusqu'à demain. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel ou supra-essentiel. C'est la traduction que vous trouvez sur le site de notre Église, littéralement venant du grec, notre pain super ou supra-essentiel, donne-nous aujourd'hui. Alors pourquoi ces différentes traductions, ces différentes interprétations, qui en réalité ne sont pas des difficultés, mais plutôt des richesses? Vous savez que plus on approche d'une simple phrase de la Bible, et plus elle s'ouvre et nous dévoile une polysémie de sens. La difficulté apparente vient d'un mot grec tout à fait curieux, bizarre, qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Et c'est le mot « épiousion ». Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot déjà. Et voilà le texte grec. « Ton arton emon, ton épiousion, dos emin semeron ». À la simple lecture, nous entendons toutes les assonances. Je vous ai dit que le Notre Père était écrit comme un poème. Dans les premières strophes, il y avait toujours « sous » et « téléma sous », « aletea sous » qui revenait. Et c'est vraiment sous une forme poétique. Et ici, ce qui domine, c'est le « on »,« ton arton emon, ton epiousion, dos emin semeron ». Il est dommage qu'en français, nous ayons perdu ce sens poétique de l'assonance dans le Notre Père. Alors, que veut dire « epiousion » ? En fait, c'est un adjectif qui se rapporte à « arton ». Et « artos » en grec, je vous en parlerai dans quelques minutes, veut dire le pain ou la nourriture. Et « epiousion », que veut-il dire ? Pour tenter de le traduire, les exégètes, et notamment saint Jérôme, qui, vous le savez, a traduit la Bible grecque en latin, ce qu'on appelle la Vulgate, se sont penchés sur la question et ont décelé qu'il y avait deux racines possibles du mot « epiousion ». La première racine, c'est « ousa » en grec, qui signifie « ce qui est nécessaire pour subsister jusqu'à demain ». Et saint Jérôme, au 5e siècle, affirmait qu'il circulait à son époque des évangiles en hébreu, et que le terme hébreu était « ma'ar », qui signifie « demain ». Alors la demande devient dans ce cas-là, selon cette étymologie, le pain dont nous avons besoin pour vivre demain ou jusqu'à demain, c'est-à-dire pour le jour qui vient. Et le père Carmignac, dont je vous citais tout à l'heure un texte, dit, propose cette traduction-là, « Donne-nous aujourd'hui notre pain jusqu'à demain ». Mais qu'est-ce que ce demain, ce lendemain ? Ce n'est pas un jour calendrier, vous vous en doutez, nous sommes dans une prière forte et profonde. Et c'est donc le pain pour ce qui vient, c'est-à-dire pour le royaume, la nourriture essentielle pour la venue du royaume. Et donc le pain dont nous parlons selon cette étymologie a une résonance eschatologique. On le voit, cette interprétation est beaucoup plus riche que le simple terme quotidien ou de ce jour que l'on emploie dans certaines traductions. Elle ouvre des perspectives sur le règne de Dieu et Jean-Yves Leloup nous écrit ceci à ce propos. Il cite un théologien, je ne sais pas si on peut le dire, ou un rabbin juif bien connu, Jérémias. Joachim Jérémias nous le rappelle, le pain de demain en Orient comme en Occident a été interprété dans le sens de pain du temps du salut. Le mot demain désigne non seulement le jour qui suit, mais aussi le grand lendemain, l'ultime achèvement. Autrement dit, donne-nous de goûter aujourd'hui, dans ce temps qui passe, quelque chose de la saveur de l'éternité. Voilà une bien belle traduction. Mais nous pouvons aller plus loin et il y a une deuxième étymologie possible et même plus probable que la première. Le terme « epiousios » viendrait de « ousia », qui signifie l'essence, la substance, la nature. Il signifie alors « épi » au-dessus, sur, par-dessus, super, au-dessus de l'essence, au-dessus de la substance. C'est-à-dire sur-essentiel, super-essentiel, supra-essentiel, ou, comme nous le disons, substantiel, au-dessus de la substance. Et c'est d'ailleurs de cette manière que saint Jérôme traduit le texte de Matthieu, « Panem nostrum super-substantialem de nobis odie ». Deuxième terme intéressant dans ce, si nous nous approchons de la phrase grecque, c'est le terme arthos. Arthos, il a une signification bien plus riche que le mot pain. Le mot pain, arthos, signifie effectivement le pain, et plus précisément le pain de froment ou le pain levé, ce qui est déjà en soi très intéressant quand on pense à tout le symbolisme de se lever, ressusciter. Mais encore, il signifie le repas et de manière plus générale la nourriture. Et alors, pourquoi le traduire par le mot pain ? Eh bien, tout simplement, parce que le pain, pour nous, occidentaux, désigne l'aliment de base. On pourrait, en Asie, le traduire par le riz, ou le manioc en Afrique, etc. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est question ici de nourriture essentielle. Et on ne doit pas s'enfermer dans une traduction trop étroite de cette demande et de ces termes. Et si nous voulions exprimer par une phrase plus longue toute cette demande du pain quotidien ou du pain essentiel, nous pourrions dire « Donne-nous aujourd'hui notre nourriture essentielle ou substantielle ou suressentielle, non seulement pour notre subsistance d'aujourd'hui, qui est importante bien sûr, mais encore et surtout en vue du royaume à venir. » Cette traduction, cette longue phrase, intègre les deux sens dont je viens de vous parler. Prenons donc le mot « arthos » en grec, ou « arton » dans le sens de « nourriture ». Et là, un petit mot, un petit retour vers l'anthropologie chrétienne. Vous savez que l'anthropologie chrétienne enseigne que l'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Saint Paul le disait déjà. Ce qui veut dire que quand il est question de nourriture, il est question de nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est bien dans ces trois acceptions que nous devons apercevoir ce que signifie le pain essentiel. Je vous cite ici un peu Monseigneur Jean, dans son livre « Technique de la prière », qui détaille chacune des nourritures. Qu'est-ce que la nourriture du corps? Qu'est-ce que la nourriture de l'âme? Qu'est-ce que la nourriture de l'esprit? La nourriture du corps, dit-il, que ce soit légumes, viande, poisson, c'est la communion avec le cosmos, les bêtes et les plantes, le contact avec la nature qui nous pénètre, la communion avec l'univers. Vous voyez qu'on est déjà loin du potager, hein, tout en étant dans le potager aussi. La nourriture de l'âme est composée des rapports avec les êtres, les cultures et les arts. Et Dieu est l'unique nourriture de notre esprit. Il ne se communique à nous que par la prière. Ni contact, ni livre, ni pensée, ni sentiment, ni rien de ce qui appartient à la culture, à la civilisation, à la religion même, ne nourrit ce qui est divin en nous. Seul le divin nourrit le divin. Ce qui veut dire, très simplement, qu'il serait réducteur de ne voir dans la demande de pain que la nourriture du corps, comme on aurait tendance à le penser dans une lecture superficielle. Et donc nous demandons au Père de nourrir les trois dimensions de notre être, de manière profonde, substantielle, pour que les trois puissent en harmonie entrer en relation étroite avec lui. N'oublions pas, comme disait un philosophe Feuerbach, que l'homme est ce qu'il mange. L'homme est ce qu'il mange. Et le père Alphonse ajoutait, l'homme devient ce qu'il mange. Ce constat fondamental nous montre déjà que nous devons être extrêmement attentifs à la manière dont nous nous nourrissons, corps, âme, esprit. Il est donc vital pour nous de rechercher la nourriture qui nous fait vivre de manière durable, substantielle, qui construit à la fois notre être physique, notre être psychique et notre être spirituel, et de découvrir ce dont nous avons réellement faim et soif. Et au fond, ce qui est au centre de cette prière, la demande de nourriture, la demande demande de pain substantiel, c'est le désir de communion. Comme le rappelait Monseigneur Jean tout à l'heure dans la phrase à propos de la communion avec l'univers, avec le cosmos, mais aussi avec, évidemment, avec Dieu. Communion à Dieu à travers la terre et la matière, par notre corps. Communion à Dieu par notre âme, à travers la beauté, l'émerveillement, les relations personnelles aussi, l'art, les rencontres, les lectures sources. Et communion à Dieu par notre esprit, c'est-à-dire par la prière. Et je développerai tout à l'heure les trois aspects de cette communion essentielle, c'est-à-dire la prière, la parole et le sacrement eucharistique. Mais attention, cette manière de dire peut paraître rigide si nous commençons à cloisonner la nourriture du corps, la nourriture de l'âme à côté et la nourriture de l'esprit. Toutes ces nourritures se rejoignent car notre être est indivisible. Nous sommes corps, âme, esprit et nous n'avons pas nourriture du corps. Rien à voir avec la spiritualité, nourriture de l'âme, rien à voir avec le corps, nourriture de l'esprit, rien à voir avec les deux autres parties de nous-mêmes. Il est évident que les trois parties communiquent et la manière de manger, déjà, la manière d'entrer en relation, de considérer le cosmos, la nature, la manière de prier, nourrissent les trois aspects de notre être de manière harmonieuse. En tout cas, c'est le but. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, je vous dis un peu comment je vois le plan de cet exposé. Eh bien, je l'ai conçu en deux grandes parties, à part la petite introduction que je viens de vous faire. La première, approche de la communion à Dieu par la nourriture, sera le pain terrestre. Et ici, nous allons essentiellement parler du corps et de l'âme, mais sans oublier, comme je viens de vous le rappeler, que l'esprit est là aussi et se nourrit ou ne se nourrit pas de notre nourriture terrestre, corporelle et psychique. Et puis la seconde partie sera le pain céleste, qui a trait à la nourriture de l'esprit, mais dont les effets bénéfiques retombent sur le corps et sur l'âme, ou rejaillissent plutôt. Première grande partie pour ce matin, le pain terrestre. Et j'ai mis un sous-titre, donne-nous le pain ou la nourriture de notre vie corporelle et psychique. Nous chantons dans les lots du dimanche matin cette magnifique phrase extraite du psaume 63. « Ô Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair dans une terre déserte sans eau. » Lorsque nous prions pour recevoir du Père la nourriture du corps et de l'âme, nous ne pouvons oublier que la nourriture, la faim et la soif essentielles qui nous habitent sont celles de la réalisation plénière de notre Dieu, de notre être, pardon, en communion avec Dieu. Comme disait le Abba Shenouda, le patriarche d'Alexandrie, découvrir que derrière ma faim de pain quotidien, entre guillemets, se cache une faim de Dieu. Voilà l'important. Tous les désirs sont infinis. Il s'agit d'en prendre conscience et de ne pas se tromper de pain. Je ne sais pas si pour vous c'est évident, cela, mais cette prise de conscience est-elle si fréquente? Parce que souvent l'être humain ignore qu'il a faim et soif de Dieu. Et pourtant, l'être humain est habité par une nostalgie indéfinissable, une soif d'absolu, un besoin de combler ce grand vide qui nous habite. Et pour le combler, souvent, on se trompe de chemin, et on se trompe de désir, et on se trompe de nourriture. Et alors, on emploie une série de rustines, ou d'emplâtres sur les jambes de bois, ou d'ersatz, oubliant que le seul qui peut nous nourrir profondément dans notre corps, notre âme et notre esprit, c'est le Seigneur. Et notre désir d'absolu se perd alors dans de multiples désirs relatifs, nous savons tous. parfois ridicule et dérisoire. Je ne me sens pas bien, mais je vais m'acheter un nœud papillon, et pourquoi pas un chihuahua ou une paire de boucles d'oreilles. Mais on sait que ces achats, qui ne sont pas forcément tous idiots en soi, mais ne nous comblerons pas, et le désir va renaître sous une autre forme. Oui, oui, François, je sais ce que tu penses. Un nouveau bic, une paire de chaussettes, un pull. D'accord. Et passé le premier moment d'enthousiasme et la première satisfaction de notre achat, nous nous sentons à nouveau profondément frustrés, insatisfaits, nostalgiques. Et un nouveau désir renaît. Ah tiens, je m'achèterai bien un livre cette fois-ci. Et le Bouddha a ainsi repéré que le désir est la source de la souffrance humaine. Et donc tout le bouddhisme va se fonder sur ce constat initial, comment combattre la souffrance par le détachement et les nobles vérités. Ce n'est pas le lieu d'approfondir tout ça. Olivier Clément écrit ceci à propos de cette déviation du désir. Quand l'homme veut dériver cet élan vers lui-même, vers la créature dans son autonomie, il suscite, comme disent les ascètes, les passions, et comme le dit la Bible, les idoles. Il investit le besoin d'absolu dans des objets limités. Et ce besoin irrassasiable, et donc fatalement déçu, ne tardera pas à le détruire. Ainsi l'homme peut donner au néant une existence paradoxale. Je trouve voilà une belle phrase profonde. Donner au néant une existence paradoxale. Et le réseau des idoles, des magies, des passions devient ce que le Nouveau Testament appelle non pas le monde créé par Dieu, mais le monde qui voile Dieu, qui voile la création de Dieu, qui ensevelit l'univers dans l'opacité et la mort. Deuxième tendance de l'être humain, outre celle d'oublier notre désir fondamental et comment le combler, c'est de compter avant tout sur soi-même ou sur nos proches pour subvenir à nos besoins fondamentaux, dont celui de la nourriture. Or, Jésus nous invite à un grand saut dans l'inconnu, un saut confiant. Il nous invite, dans la demande de pain substantiel, à nous tourner d'abord vers le Père, même en ce qui concerne la nourriture terrestre du corps et de l'âme. Je vous cite ce passage bien connu de saint Matthieu 6. Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? » Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Alors le Christ nous propose-t-il ici de devenir des sortes d'irresponsables, des imbéciles heureux, complètement détachés des contingences matérielles, insouciants, et d'attendre, comme dit le proverbe, béatement que les alouettes nous tombent toutes cuites dans la bouche? On s'en doute certainement pas, c'est pas le sens de ce message. D'ailleurs, comme le dit la sagesse populaire, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Le Christ nous invite simplement à prendre conscience d'une chose fondamentale, c'est que toute nourriture est un don de Dieu. Comme les psaumes le chantent à de nombreuses reprises, par exemple, le psaume 145, « Les yeux de tous espèrent en toi, ils te leur donnent la nourriture en temps opportun. Tu ouvres ta main généreuse et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » En réalité, le Christ nous invite à prendre conscience de notre état de dépendance fondamentale, c'est-à-dire, plus profondément, de notre filiation à l'égard du Père Céleste. On en a déjà longuement parlé dans la première partie du commentaire. Et qu'est-ce qu'être véritablement fils ou fille? Eh bien, c'est accepter humblement de dépendre du père ou de la mère, ou des deux, et des deux. C'est admettre que nous ne pouvons compter sur nos seules forces et crier avec le psalmiste « Mon Dieu, je crie vers toi, exauce-moi » ou encore « Ô Dieu, viens à mon aide » qui ouvre tous nos offices. Et nous replacer, en fait, dans l'axe de la gratitude. En commençant cette prière, j'ai trouvé cette citation sur un site internet, en commençant cette seconde partie du Notre Père par la demande « Donne-nous », nous confessons notre indigence. Nous reconnaissons que tout nous vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? C'est une phrase de saint Paul dans 1 Corinthiens. Dans l'ordre de la nature comme de la grâce. Et nous proclamons notre confiance en sa bienveillance paternelle. Or, cette attitude de dépendance, d'acceptation filiale, est extrêmement mal connue, mal acceptée, en général, chez l'homme et la femme contemporains, et même violemment rejetée par ceux qui se croient libres, autosuffisants, et qui refusent les dons de Dieu, ou en tout cas refusent, méconnaissent la source des dons que nous recevons. Et pourtant, c'est cette prise de conscience salutaire qui nous ouvre à l'action de grâce. N'appelle-t-on pas d'ailleurs la prière avant les repas, les grâces? Nous reviendrons un peu plus loin sur cette attitude fondamentale de celui qui, recevant une nourriture terrestre, prend conscience qu'elle vient de Dieu et la reçoit avec gratitude. Et je pense que nous pouvons creuser une double prise de conscience. D'abord, la manière dont je me nourris. Et ensuite, quelle est ma relation avec la nourriture et la matière et la terre? Première prise de conscience, première question, comment je me nourris? Vous connaissez le proverbe « Dis-moi comment tu manges » ou bien « Qui tu fréquentes » plutôt, ça c'est une paraphrase. « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » On pourrait dire « Dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es. » Car je peux manger avec avidité, gourmandise, rapacité, dévorer, engloutir. Et malheureusement, l'histoire, si on élargit la chose non seulement à la nourriture, mais à tout le comportement humain, est une longue et pénible illustration de cet accaparement, de cette convoitise qui nous précipite vers les richesses, que ce soit la nourriture, la terre, la richesse, au détriment d'autrui. L'histoire est tissée de vols, pillages, rapines, dépossessions violentes, dominantes, domination, guerre. L'avidité humaine n'a pas de limite, ni l'esprit de conquête de l'homme. Et cette violence insensée qui s'empare des hommes possédés par leur cupidité se retourne aussi contre la terre, dont il veut s'emparer pour exploiter ses richesses. Et Olivier Clément écrit ceci: « Dans le monde soumis à la vanité, les individus s'excluent, s'entre-dévorent. L'homme, loin d'assumer l'univers pour le transformer en offrande, car c'est bien de cela qu'il s'agit profondément, veut le capter et se trouve absorbé par lui. » À un niveau individuel, je peux manger de manière avide, compulsive, nous savons. Et encore une expression populaire, vous le savez comme moi, il y a beaucoup de sagesse dans les expressions populaires. Une expression populaire dit ceci: on creuse la tombe, ça tombe avec ses dents. Voilà, une expression terrible. On peut creuser sa tombe avec ses dents. Et la Bible, en termes plus théologiques, je dirais plus profonds, dit que la convoitise est la racine du péché. C'est-à-dire de la séparation avec moi-même, avec mes frères, avec Dieu. Et la racine de la convoitise elle-même, c'est la peur du manque, la peur de perdre et finalement la peur de la mort. La convoitise, c'est un désir totalitaire qui nous submerge et qui domine, comme toutes les passions, celui qui l'a subi. Et c'est donc une perversion du désir. Si nous prenons la lettre de Saint Jacques, que nous ne lisons pas souvent, mais il y a des choses vraiment profondes et intéressantes, Saint Jacques nous dit « Chacun est entraîné par ses propres convoitises, qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, parce que la convoitise en elle-même enfante, elle enfante le péché. Et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. » Voyez le cercle vicieux de la chose. La convoitise, en fait, si nous creusons, je vous ai dit que la peur était à la racine de la convoitise, mais la convoitise traduit, en d'autres termes, un manque fondamental de confiance. De confiance en Dieu, en nos frères, et peut-être aussi en nous-mêmes. Et il y a un épisode dans la Bible qui est très significatif et très illustratif, très parlant de cette attitude. Peut-être vous l'avez en tête, c'est l'épisode de la manne dans le désert. Vous savez que les Hébreux errent depuis des années, totalement désespérés, et regrettent l'Égypte finalement, parce qu'ils disent, en Égypte au moins on avait à manger de la viande, du lait, du miel, tout ce que nous aimions, et ici nous sommes en train d'errer dans le désert, et vers où ce demi-fou de Moïse nous mène-t-il ? C'est très beau de parler de la terre promise, mais où est-elle et qu'est-ce que nous aurons à manger ? Et Dieu, entendant cette détresse du peuple hébreu, va lui envoyer ce qu'on appelle la manne. Et la manne, c'est comme des flocons qui tombent du ciel. Ce n'est pas des flocons d'avoine, c'est des flocons dont on ne connaît pas la nature. Et d'ailleurs, en hébreu, le terme manne signifie « qu'est-ce que c'est ?». Donc, déjà là, il y a un mystère qui apparaît, mais un mystère nourrissant au sens fort du terme, puisqu'il nourrit aussi le corps. Et Dieu dit quelque chose d'assez intéressant et très pédagogique. Il dit « Je vous envoie la manne, mais pour une journée à la fois. » On ne peut pas conserver la manne. Et non seulement il n'y a pas de frigo dans le désert, mais si vous la conservez, elle pourrit, elle se dégrade. Et donc, certains Hébreux vont se mettre malgré tout à prévoir le lendemain, en se disant « On ne sait jamais, si la manne ne tombe pas le lendemain. » Eh bien, dit l'Exode chapitre 16-20, il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au lendemain, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Et donc la dégradation de la nourriture ici est bien, c'est une illustration du fait qu'elle est en fait, en réalité, un reflet de la dégradation de notre confiance. Et elle émane d'un cœur, c'est le cas de le dire en un mot, elle émane d'un cœur inattentif, rongé par le manque de confiance. Deuxième aspect, après l'aspect de la confiance et de savoir comment je me nourris, c'est l'aspect de ma relation à la matière, ma relation à la terre, ma relation au cosmos. Il serait intéressant pour chacun de nous, mais vous le ferez pendant les temps de silence qui suivront, si vous le souhaitez, c'est de m'interroger quelle est ma relation personnelle à la matière. Comment est-ce que je considère la matière? Comment est-ce que je considère la nature? Est-ce qu'elle est là pour me servir? Est-ce que je la considère comme quelque chose d'inerte, simplement utile? Ou bien j'ai une autre attitude vis-à-vis d'elle? À côté de l'abandon et de la confiance à la providence dont je viens de vous parler, existe une autre attitude fondamentale que nous enseigne la Bible, et c'est l'attitude d'émerveillement devant la beauté de la matière, de la terre, du cosmos, et le désir de communion qu'il suscite. Communion avec la nature, avec la nourriture, mais avec tout le cosmos. Et enfin, troisième attitude, la gratitude de recevoir toute cette beauté. Or, ce n'est pas, nous le savons déjà dans la Genèse, l'attitude de l'homme qui pervertit la pensée divine. Dans la vision qui est devenue habituelle, de plus en plus habituelle à notre époque, on ne perçoit plus la sacralité profonde de la matière. Je répète parce que le terme est important, la sacralité profonde de la matière et du corps humain. Et de la terre, en un mot, du pain, entre guillemets, qui nous nourrit, fruit de la terre et du travail des hommes, comme on le dit dans la liturgie. Et très souvent, l'homme contemporain perd le sens de la communion au créé. Et on met la nature et la matière à distance, en la considérant ou en les considérant comme des objets inertes ou un simple cadre de vie. On parle de l'environnement, c'est-à-dire quelque chose d'objectif, de neutre, vidé de son mystère. C'est-à-dire qu'on perd le sens sacré du cosmos. Vous savez, le sacré, il n'est pas simplement dans la prière, il n'est pas simplement dans l'église, il est partout, il est en nous et autour de nous, à commencer par la matière. Saint Paul dit cette phrase terrible qui a été répercutée chez les pères de l'église, dont je vous citerai quelques phrases par la suite. Il dit « La création a été assujettie au vide ». C'est dans Romains chapitre 8. Et déjà le prophète Jérémie se lamentait sur le sort de la création. Livré aux mains irresponsables de l'homme, il écrivait « À cause de la méchanceté des hommes qui habitent la terre, le bétail, les oiseaux périssent. Je regarde la terre et voici qu'elle est informe et vide. » Et saint Grégoire de Nyssa dira « Les créatures, toutes les créatures ont été blessées parce qu'elles n'ont pas été employées selon leur sens profond, dont je vais vous parler dans quelques instants. Autrement dit, toutes les créatures sont asservies, avilies, salies par l'homme. L'homme, en tout cas, dans la mesure où il perd le contact profond avec son être et avec Dieu. Et il ne voit plus alors dans les plantes, dans les animaux, dans la terre, que des ressources à exploiter, un trésor à piller. Saint Siméon, le nouveau théologien, a écrit un texte assez étonnant là-dessus, qui décrit la dégradation du cosmos suite au péché de l'homme. Je ne sais pas, je crois que j'ai encore le temps, oui, je pense que j'ai le temps de vous lire. Il dit ceci, « Toutes les créatures, lorsqu'elles virent Adam chassé du paradis, ne consentirent plus à lui rester soumises. » Ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne voulurent plus le reconnaître. Les sources refusèrent de faire jaillir l'eau, les rivières de continuer leur cours. L'air ne voulut plus palpiter. Les bêtes féroces et tous les animaux de la terre se mirent à le mépriser. Et tous étaient prêts à l'assaillir. Le ciel s'efforçait de s'effondrer sur sa terre, et la terre ne voulut plus le porter. Mais, heureusement qu'il y a un mais Dieu ne les laissa pas se déchaîner contre l'homme, mais ordonna que la création restât sous sa dépendance, jusqu'à ce que l'homme, lueur d'espoir, renouvelé, redevienne spirituel, incorruptible et éternel, et que toutes les créatures soumises par Dieu à l'homme se libèrent aussi, se renouvellent avec lui, et comme lui, deviennent incorruptibles et spirituels. Je vous invite à relire ce texte, on ne saisit pas toute sa profondeur et toutes ses nuances en une seule lecture, mais je dois avancer. Deuxième illustration de cette attitude de l'homme qui dégrade la nature et qui la met à distance, c'est la science matérialiste. Vous savez que dans de très nombreuses cultures et traditions de l'humanité, l'homme et la nature sont intimement liés, reliés, notamment dans les traditions animistes et panthéistes. Et cela exprime cette conscience très forte que l'homme et tout ce qui l'entoure sont intimement imbriqués les uns dans les autres, c'est-à-dire profondément solidaires, et qu'une âme secrète habite même la matière, même la nature. Une âme secrète habite toute chose. Alors on perçoit la nature comme vivante dans les traditions animistes, hein, et dans la tradition grecque aussi par exemple. Et la nature est peuplée par des esprits, des dieux, des divinités, des nymphes, des elfes, tout ce que vous voulez, tout ce que nous connaissons dans les traditions celtiques et autres. Cette conscience n'est évidemment plus celle du christianisme. Nous ne pensons pas qu'il y a le dieu de la source et que nous allons rencontrer une nymphe au détour d'un bois. C'est parfois bien dommage d'ailleurs. Mais cette conviction, cette pensée anime en réalité secrètement toute la tradition chrétienne. Et je vous donnerai un seul exemple très, très parlant. Si vous regardez les sculptures des cathédrales romanes et gothiques, vous verrez à quel point cette nature est animée par toutes sortes de petits êtres qui, bien sûr, sont soumis à Dieu, mais sont des traces de cet animisme fondamental qui, je dirais, justement, anime toutes les traditions de l'humanité. Et donc, c'est la conscience magnifique que la nature n'est pas inerte, qu'elle est profondément habitée. Ce qui est intéressant, c'est de constater que cette proximité, cette connivence, cette intimité de l'être humain avec le monde qui l'entoure a malheureusement disparu en grande partie, mais elle revient peut-être maintenant, sous les coups de butoir d'une science mécaniste, matérialiste, depuis le XVIIe siècle. Une science arrogante qui a détaché l'homme du cosmos, et bien sûr de Dieu, pour ne voir dans la matière et dans la nature que des objets sans âme, inertes, mis à distance de manière soi-disant objective. Je vous cite ici un extrait d'un biologiste contemporain, Rupert Sheldrake, qui a écrit un beau livre, notamment « L'âme du monde ». Il écrit ceci, « L'emballement relativement récent de la maîtrise scientifique s'enracine dans la révolution scientifique du XVIIe siècle. La différence tient à l'extraordinaire accroissement de l'ambition de dominer et de maîtriser la nature. » Une façon de traiter le monde comme s'il n'avait en soi ni valeur, ni existence propre. Et à la suppression des entraves traditionnellement imposées à la connaissance et à la puissance humaine. C'est Francis Bacon, qui était un savant anglais du XVe siècle, je crois, emploie des images derrière pour décrire cette perversion de l'homme, mais lui, il était partisan de cette perversion. Pour lui, le viol de la nature est tout à fait normal. Il s'agit d'extirper à la nature toutes ses richesses et tous ses secrets. Voici ce qu'il écrit. La nature se dévoile nettement, plus nettement, sous les contraintes et les tourments que lui inflige l'art, c'est-à-dire les appareils de mesure, que lorsqu'elle demeure livrée à elle-même. Il dit aussi les coins. Secrets, les plus secrets de la nature doivent être violés, pénétrés à la recherche de la vérité. Il faut l'assujettir, en faire une esclave, la contraindre, de sorte que la connaissance et la puissance humaine ne fassent qu'un. Voilà la mentalité qui a imprégné pendant des siècles la science, qui est heureusement, et je vous en parlerai tout à l'heure, totalement en train de changer d'optique à notre époque. Cet auteur, donc Rupert Sheldrake, décrit bien les conséquences destructrices de cette mentalité scientifique qui a détaché l'homme de la nature, totalement désacralisé. Il dit, alors que pour les scientifiques, la signification de la conquête de la nature est largement métaphorique, elle n'est que trop littérale pour ceux qui s'approprient les terres vierges, les compagnies minières et forestières, et pour les exploitants en général. Nous avons exporté partout, nous les Européens, notre idéologie de conquête en y joignant la technologie qui permet de la mettre en œuvre. Le vieil ordre animiste dont je vous parlais tout à l'heure, l'ancienne relation entre les individus et leurs terres sont renversées à mesure que les bulldozers avancent et que l'ordre nouveau s'impose à la surface de la Terre. Nous connaissons tous cette horreur qui se déploie sur la surface de toute notre belle terre. Alors, cette attitude de mise à distance de la nature a de nombreuses conséquences désastreuses. La première conséquence est que la conscience de notre lien ontologique avec la terre, avec la matière, qui est capable de transfiguration, nous allons en reparler, par les énergies divines, s'estompe et disparaît. Première conséquence, catastrophique. Deuxième conséquence, au fond c'est toujours la même conséquence, mais décrite de différentes manières, l'homme, au lieu d'être le jardinier de la terre, comme nous le voyons dans la Genèse, son roi, son prêtre, qui doit la porter en offrande à Dieu, l'accapare pour la saccager sans vergogne, sans limite. Et dès lors, la terre et la matière ne sont plus des lieux sacramentels, c'est-à-dire des lieux d'union avec Dieu, mais sont des lieux profanés, dégradés, détruits. Et le corps de l'homme lui-même n'est plus perçu comme le temple de Dieu, comme le dit saint Paul, mais devient un objet plus ou moins respecté, et en tout cas désacralisé. Alexandre Schmemann, que certains d'entre vous connaissent certainement, le père Schmemann, a écrit une belle page là-dessus, que je ne vous lis pas maintenant, je vous les trouverai dans les textes que vous aviez sous vos chaises, parce que sinon je ne pourrais pas aller plus loin, mais je vous engage à lire ce beau texte, qui est un peu long mais très, très profond. Il commence par « L'homme devait être le prêtre de cette Eucharistie, offrir le monde de Dieu, et dans cette offrande appelé à recevoir le don de la vie, mais, etc. » Vous le lirez. Et nous comprenons alors ce que nous dit saint Paul quand il dit « La création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. » La création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Cette phrase est magnifique. Et saint Paul, comme vous le savez, a l'art des formules qui touchent. Et il dit en une seule petite phrase deux aspects fondamentaux et antinomiques. La création gémit dans les douleurs. Donc elle est malmenée, elle gémit, elle se tord. Mais ce sont les douleurs d'un enfantement. Et donc, vision négative, mais vision positive. Il n'y a pas lieu de désespérer, car nous allons vers un enfantement, une naissance possible. Naissance ou renaissance ou passage. Et vous savez que passage veut dire Pâques. Renouvellement, transformation. Et donc nous pouvons, et nous le sommes tous, j'en suis évidemment persuadé ici, prendre conscience de la possibilité de communier avec la matière, la nature, la terre, le cosmos, pour les restaurer, les transfigurer et les porter en offrande. Comme disait le père Alphonse dans le dialogue avec le patriarche Enouda, le sens de la vie, c'est d'entrer en osmose avec le vivant. Entrer en osmose avec le vivant, c'est-à-dire avec le Dieu vivant, le grand vivant, mais avec tout le vivant, toute sa création, qui vit et palpite sous le regard de Dieu. Car en réalité, si nous avons des yeux pour voir, nous voyons que toute la création nous parle de Dieu. La beauté de la matière, qui est tant magnifiée dans la Bible. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Psaume numéro 7, 13. L'œuvre de Dieu n'est que splendeur et magnificence. Psaume 111. Je te bénis pour tant de puissance, pour la splendeur de l'être humain. Tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur. Mon âme se plaît à les publier. Psaume 139. Et dès la Genèse, nous voyons le Dieu créateur crier de joie devant la beauté de sa création. Chaque fois, il crie, tof, c'est-à-dire magnifique, quelle réussite, formidable. Et Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était beau. Oui, la création est belle et Dieu s'en réjouit, s'en retenir. C'est un chef-d'œuvre qui le met en joie. La création est comme une pâte qui lève sous l'impulsion d'un invisible levain. Monseigneur Jean écrit « Le sens cosmique dans la pensée divine, c'est l'embellissement, un travail progressif pour atteindre la beauté définitive. L'existence et l'utilité sont certes importantes, mais elles ne sont pas suffisantes à la création. La création est soulevée par un mouvement ascendant vers la beauté. » Cette matière, donc, dont nous faisons partie aussi, et dont font partie le pain et la nourriture que nous demandons au Père, cette matière est destinée à devenir entre nos mains une Eucharistie, c'est-à-dire, littéralement, une action de grâce. La recevoir en action de grâce et l'offrir en action de grâce. Nous sommes déjà, comme vous le voyez, très proches du sacrement eucharistique dont nous parlerons tout à l'heure. Je voudrais illustrer cette approche de la communion de l'homme avec la nature par trois textes magnifiques que je ne vous lirai pas tous, bien que j'en ai grande envie parce que pour moi c'est vraiment dans les plus beaux textes que je connaisse. Je vous en ai déjà cité deux qui sont extraits de Dostoïevski, des frères Karamazov. Au moment, c'est cet instant lumineux, comme dirait Durkheim, vous savez, où Alyosha, le troisième frère, descend et se trouve pris dans un bain du cosmos, un enthousiasme qui le submerge et il se met à embrasser la terre dans un mouvement qui le transforme pour la vie. Je ne peux pas en parler sans émotion, je suis toujours pris. Ce sentiment que certains appelaient le sentiment océanique, ou le sentiment lumineux, nous le retrouvons aussi dans le récit du pèlerin russe, et en particulier le deuxième récit, dont je vous lis un petit extrait. Quand je priais du fond du cœur, tout ce qui m'entourait m'apparaissait sous un aspect ravissant. Les arbres, les herbes, les oiseaux, la terre, l'air, la lumière, tous semblaient me dire qu'ils existent pour l'homme, qu'ils témoignent de l'amour de Dieu pour l'homme. Tout priait, tout chantait la gloire de Dieu. Je connaissais ainsi ce que la philokalie appelle, entre guillemets, la connaissance du langage de la création. Et je voyais comment il était possible de converser avec les créatures de Dieu. Le second passage que vous lirez tout à l'heure dans les textes que je vous ai donnés, si vous le souhaitez, à part le beau texte d'Alyosha, c'est un texte toujours extrait des frères Karamazov, où un homme raconte qu'il était un jour au bord d'une rivière et en conversation avec un jeune qu'il ne connaissait pas, un jeune homme très pur qui s'émerveillait de tout ce qui l'entourait. Et je vous lis la fin quand même de ce texte. Je ne résiste pas au plaisir de le faire. Que c'est beau, disait-il, comme toute l'œuvre de Dieu est belle et innocente. Et il se plongea dans une méditation douce et paisible. Il s'endormit auprès de moi d'un sommeil léger et pur. Je m'éveillai tôt. Tous dormaient encore. Et le soleil lui-même n'était pas encore sorti du bois. Mon petit, c'est l'ancien qui parle et qui donne ce récit à quelqu'un qui l'enseigne. Mon petit, je levais la tête, promenais mes regards autour de moi et respirais. Beauté inexprimable. Tout est calme. L'air léger. L'herbe pousse. Pousse, herbe de Dieu. Le petit enfant piaille dans les bras de sa mère. Que Dieu te garde, petit homme. Grandis et sois heureux. Alors, pour la première fois peut-être de toute ma vie, j'enfermais tout cela au-dedans de moi. Je me recouchais et m'endormis, si léger. Il y a un mystère, tant mieux. Le cœur y trouve à la fois crainte et admiration, et sa crainte même devient joie. Tout est en toi, Seigneur, et moi aussi, je suis en toi. Prends-moi. Voilà la description des tas de grâces que nous ressentons tous à certains moments dans notre vie et où nous pressentons la présence divine dans la matière elle-même, dans les éléments naturels. Et vous savez peut-être, vous connaissez Saint Nectaire d'Égine dont nous venons de fêter la fête il y a quelques jours. Et Saint Nectaire dirigeait une communauté de moniales. Et je vais vous lire un texte écrit qui est extrait de la vie de Saint-Nectaire, écrit par Ambroise Fontrier. Saint-Nectaire d'Égine, ça s'appelle, je ne sais pas si tu connais.
C'est un des premiers prêtres, Monseigneur Jean.
Ah oui. Et voilà donc, il écrit ceci, qui est vraiment cette expérience de communion avec la nature que Saint-Nectaire d'Égine a permis de vivre à ses moniales à un moment tout à fait béni. Un jour, nous demandâmes, c'est une moniale qui raconte, nous demandâmes à notre Père, après l'entretien habituel du soir, de nous dire comment les créatures privées de sens et de voix, comme le soleil, la lune, les étoiles, la lumière, les eaux, le feu, la mer, la montagne, les arbres, enfin toutes les créatures que le psalmiste invite à louer Dieu, pouvaient le faire. Le saint ne répondit rien. Quelques jours après, alors que se déroulait l'entretien vespéral sous le même pain, il nous dit « Vous m'avez demandé il y a quelques jours de vous expliquer comment les créatures louaient Dieu. Eh bien, voici, écoutez-les. » Les moniales furent alors introduites, Dieu sait comment, dans le monde transfiguré, où elles entendirent distinctement chaque créature chanter et louer, selon leur mode, le Seigneur et Créateur. On aurait voulu être là. Pour en revenir à la nourriture terrestre qui alimente notre corps, en mangeant, en buvant, et notre âme en s'émerveillant devant la beauté de la matière et du cosmos, nous pouvons dire que si nous nourrissons notre corps et notre âme en pleine conscience de la sacralité de la terre et dans la gratitude au Créateur, l'acte même de manger, de boire, de contempler devient par lui-même une louange au Père. Saint Paul à nouveau dit que vous mangiez ou que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, car il rend gloire à Dieu. Alors cette demande de pain de ce jour, ou de pain de demain, ou de pain substantiel, est déjà vécue comme une prière et action de grâce. Et c'est à travers ce pain, cette nourriture qui vient de la terre, que nous communiquons déjà aux énergies divines qui imprègnent la matière. Olivier Clément nous dit, dans la vision chrétienne, la nature est une réalité neuve, véritable, et non pas apparente comme certaines traditions le disent. C'est une réalité véritable, dynamique, animée par une force lumineuse, spermatique, que Dieu a introduite en elle comme tension vers la transcendance. La contemplation de la nature constitue un aspect majeur de la mystique orthodoxe. Contemplation active, car une certaine transformation du cœur et du regard transforme réellement le monde. La nourriture, écrit le père Serge Bulgakov, est notre communion naturelle à la chair du monde. Magnifique, on pourrait l'afficher. La nourriture est notre communion naturelle à la chair du monde. Et cela se manifeste d'ailleurs dans les traditions, vraiment de manière tout à fait générale, dans toutes les traditions de l'humanité. Par des rites que l'on appelle les sacrifices et les repas sacrés. Cette conscience du lien entre la nourriture et le don de Dieu s'exprime donc par ces sacrifices et ces repas sacrés. C'est un très vaste sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais qui manifeste la conscience qu'a l'homme de la relation possible avec la transcendance à travers la matière et en particulier à travers la nourriture. Dans une société traditionnelle, vous le savez, tous les repas, même les plus humbles, ont un caractère sacré, car ils sont conçus comme reliant l'homme à Dieu, ou au Dieu, qu'il s'agisse d'un simple repas familial, d'un repas de fête, ou d'un repas de, je dirais, liturgie. Que se passe-t-il en réalité dans le sacrifice? Si nous analysons, qu'est-ce qu'un sacrifice? En réalité, un sacrifice, c'est quelque chose, une matière que l'on sacrifie, c'est-à-dire littéralement que l'on rend sacré, que l'on fait pénétrer dans la sphère du sacré, que l'on offre à Dieu pour la recevoir en retour, pénétrer des énergies de la divinité. Et à travers ce don de nourriture, le plus souvent, c'est l'homme lui-même qui s'offre au tout autre. Par le sacrifice, donc, l'homme est transféré dans la sphère du divin par l'intermédiaire d'un objet, que ce soit une plante, un animal ou parfois même un être humain offert à la divinité. Ainsi, à la conscience du don reçu de Dieu répond le sacrifice qui est un don fait par l'homme à Dieu. C'est une sorte de cercle vertueux qui s'alimente de lui-même. Nous recevons de la matière de Dieu, nous recevons la nourriture de Dieu et nous la lui offrons et en retour, nous consommons la nourriture du sacrifice. À nouveau, nous approchons de ce sacrifice fondamental, de cette nourriture substantielle qu'est l'Eucharistie. Vous savez par exemple que les Hébreux avaient de multiples repas sacrés, notamment ceux qui commémoraient la délivrance du pays d'Égypte et que nous retrouvons dans l'Exode. Et le repas le plus fameux est évidemment celui de la Pâque, que nous lisons d'ailleurs dans notre Pâque, chapitre 12 de l'Exode. Mais il en est d'autres, beaucoup d'autres, dont par exemple ce qu'on l'on appelait le zéba sélamine, excuse pour ma prononciation déficiente, mais en français ça veut dire le sacrifice de paix. Au cours duquel les participants et le prêtre consomment une nourriture qui est offerte à Dieu et dont le sang et la graisse sont offerts à Dieu, mais la viande elle-même est consommée par le prêtre et les fidèles. À nouveau, voici une préfigure de l'Eucharistie. D'autres repas aussi ponctuent l'Ancien Testament ou le Premier Testament, comme on l'appelle. C'est les grands moments de l'Alliance. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais tous les épisodes où l'Alliance est affirmée et réaffirmée sont ponctués par un repas. Par exemple, l'Alliance avec Noé. Dieu donne à l'homme la nourriture carnée. C'est-à-dire que vous savez que dans la Genèse, la nourriture végétale est donnée à l'homme avec interdiction de tuer les animaux. Par la suite, Dieu évolue, si on peut dire, il s'adapte à l'homme et il lui donne la nourriture carnée, alliance avec Noé. Alliance avec Abraham est immédiatement suivie par le récit de ce fameux repas que Andrei Rublev a représenté, que l'on appelle l'hospitalité d'Abraham. L'alliance avec Moïse est célébrée solennellement sur la montagne de l'Horeb par Moïse, Aaron et 70 anciens du peuple hébreu, etc. Et dans l'Apocalypse, en prenant l'autre bout de la Bible, les noces de l'agneau sont célébrées par ce fameux banquet apocalyptique ou des eucharistiques qui nous est offert. Et vous savez que cette image de repas de noces traverse aussi tout le Nouveau Testament. Et il y a un passage particulièrement touchant que l'on retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 3, et que nous citons souvent, mais je le recite à nouveau pour attirer votre attention sur le fait qu'à nouveau, il s'agit d'un repas. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. » Il est important au passage de noter que les trois aspects importants des repas sacrés dont je viens de vous parler préfigurent déjà le repas eucharistique, c'est-à-dire la louange et l'action de grâce, le sacrifice et la communion. Trois éléments fondamentaux que nous retrouvons dans notre liturgie. Un autre élément tout à fait essentiel, toujours dans ce premier chapitre de la nourriture terrestre du corps et de l'âme, mais qui nourrissent bien entendu l'esprit aussi, c'est le partage fraternel. Bénir la nourriture pour soi-même ne suffit pas. Encore faut-il, écrit Olivier Clément, qu'elle fasse l'objet d'un juste partage. Et le juste partage dont il est question nous ouvre à une autre dimension de cette communion avec la terre, avec le cosmos et à travers eux, à Dieu. Je ne demande pas dans la prière du Notre Père, donne-moi mon pain substantiel, mais donne-nous notre pain substantiel. Et ce petit adjectif, notre, pourrait paraître anodin et passer presque inaperçu, tellement il est discret, et tellement nous avons l'habitude de le répéter. Et pourtant, il devient il revient comme un leitmotiv tout au long de la prière. Le premier mot de la prière, c'est notre Père, déjà pas mon Père. Et à chaque détour, notre Père est, notre est répété, notre pain substantiel, nos dettes, nos débiteurs, que nous n'entrions pas dans la tentation, délivre-nous. Un commentateur du Notre Père écrivait ceci, qu'il exprime mieux que moi, « Quand je dis le Notre Père avec sincérité, en ne pensant à personne, en pensant simplement à Dieu, ce sont tous mes frères humains contemporains, avec leurs souffrances, que je prends dans ma prière, que je rassemble dans ce Notre. Je déborde alors les limites de mon moi. » Cette dimension fraternelle, collective, est évidemment au cœur de notre prière dominicale. Et cette demande de nourriture, de notre nourriture, exclut par sa formulation même une captation égoïste de la nourriture, un accaparement des richesses. Les écrivains sacrés n'ont cessé de mettre l'accent sur la nécessité de partager son pain avec la famille. Et le devoir d'hospitalité est souligné à de très nombreuses reprises dans la Bible. Je vous cite quelques extraits, mais vous pouvez en trouver des tas d'autres. L'homme juste qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. C'est dans Ézéchiel. Dans Isaïe, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Voilà un texte fameusement d'actualité. Et cette charité fraternelle doit s'étendre, dit la Bible, même à nos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. On croirait que c'est une phrase du Christ, mais on la retrouve dans les Proverbes, Proverbe 25. C'est une préfigure de ce que le Christ va déclarer. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et soif, vous m'avez donné à boire. Matthieu 25. Et le partage fraternel dans la Bible s'étend même au-delà, je dirais, du gîte et du couvert. Je retrouve la suite de mon texte. Voilà. Un passage peu connu de l'Exode nous dit ceci. Pendant 6 années, tu ensemenceras. Je recommence. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Donc, si vous avez un potager, 1 an sur 7, vous le mettez à la disposition de tous vos voisins et de tous ceux qui passent. Et même la vigne, même les oliviers, c'est-à-dire la nourriture de base du peuple hébreu. Et cette ouverture généreuse, pas la peine de le souligner, mais je le dis quand même, est à l'exact opposé de la convoitise, évidemment, de la volonté de posséder au détriment des autres, qui anime tant d'hommes et tant de guerres, et qui parfois nous anime nous-mêmes, il faut bien le reconnaître. Alors, si vous tenez le coup encore 3 minutes, je peux terminer en passant à un sujet proche, mais quand même un peu différent, c'est le jeûne. Vous vous dites, c'est quand même un peu gonflé de nous parler de nourriture dans une journée de jeûne. C'est vrai. Mais il n'y a pas qu'un type de nourriture, vous l'avez déjà compris. Alors, pourquoi jeûner? Puisque je vous dis que manger, boire avec la conscience de ce qui anime le créé en profondeur, c'est-à-dire la grâce divine et les énergies divines, c'est être en communion avec Dieu. Alors, pourquoi se priver de cette nourriture? Eh bien, vous savez aussi que le jeûne se retrouve dans toutes les traditions spirituelles. C'est-à-dire, se priver, s'abstenir de manger, de boire pour le corps, mais aussi de tas d'autres choses pour l'âme. Nous pouvons nous priver de lecture, nous abstenir de regarder la télévision, ou de faire des tas de choses qui nous plaisent, ou de faire des courses, ou je ne sais quoi, simplement parce que nous voulons rentrer en nous-mêmes. Nous voulons être disponibles à autre chose. Donc le sens du jeûne est évident, c'est de mettre à distance la nourriture physique et psychique pour ouvrir en nous un nouvel espace. Comme la Bible le dit, c'est où élargir l'espace de notre tente. Élargis l'espace de ta tente, dit un des prophètes. Ouvrir un nouvel espace et en prendre conscience, et cet espace, c'est celui de la faim et de la soif de Dieu. De la faim et de la soif spirituelle. Car la nourriture de notre esprit n'est pas tout à fait la même que celle du corps et de l'âme, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. L'esprit se nourrit de prière, c'est-à-dire de la grâce, de la parole de Dieu, de sa présence. Le prophète Joël disait, par exemple, « Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne. » Et lorsque je m'arrête de me nourrir volontairement, lorsque j'entre aussi dans le vrai silence, parce que le jeûne de parole est très important, c'est pour ouvrir cet espace intérieur sans être distrait par des sollicitations extérieures. Me mettre dans un état de vacances, d'écoute, de vigilance, de disponibilité. Pour restaurer en moi cette hiérarchie esprit, âme, corps, qui est le plus souvent inversée. Nous commençons souvent soit par le corps, soit par l'âme, et l'esprit est le petit oublié, là dans le fond du fond, de l'oubliette intérieure. Alexandre Schmemann disait « Le but du jeûne, c'est de libérer l'homme de la tyrannie déréglée de la chair, qui s'établit lorsque l'esprit cède devant le corps et ses appétits. » On pourrait aussi dire « devant l'âme et ses appétits ». C'est encore bien plus puissant que le corps, souvent. C'est seulement par un lent et patient effort que l'homme découvre qu'il ne vit pas seulement de pain et restaure en lui la primauté de l'esprit. Vous savez que dans la Bible, nous rencontrons de très nombreux exemples de jeûnes pratiqués par Élie, Moïse et évidemment Jésus et Jean-Baptiste. Mais attention, comme dans toute pratique spirituelle, le jeûne peut porter des fruits amers, des fruits contraires à ce que nous recherchons. C'est-à-dire qu'il peut être pratiqué avec ostentation, avec orgueil. Et alors, dans ce cas, il nous détourne de Dieu plutôt que de nous y amener. Le jeûne et toute pratique d'ailleurs, toute pratique religieuse, ascétique, toute pratique même liturgique, peut être une source d'égarement. S'il est présidé par un esprit de domination ou par la vanité. Tout rite peut devenir ritualisme pernicieux parce qu'il est déconnecté du sens profond. Et quel est le sens profond du jeûne et de tout rite? C'est la louange, l'écoute, la disponibilité. C'est pourquoi le Christ et les prophètes s'élève avec tant de force contre les pratiques extérieures qu'on peut dire tape à l'œil, comme celles, malheureusement, des pharisiens, auxquelles le cœur ne participe pas, mais extérieurement, c'est magnifique. Et auxquelles aussi, l'esprit de partage peut être absent. Nous pouvons jeûner pour nous-mêmes en nous fichant complètement de nos frères qui souffrent. Et je termine ce premier exposé par ce texte d'Isaïe, Isaïe qui est le prophète de l'Avent, comme vous le savez, nous allons lire Isaïe durant tout ce temps de l'Avent, magnifique prophète. « À quoi bon jeûner si vous n'y prenez pas garde? Et vous mortifiez si vous n'y prenez pas attention? Oui, le jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous contraignez vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en dispute et querelle. Vous frappez du poing le pauvre. Ce n'est pas en jeûnant ainsi que vous ferez... Portez votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jeûne où l'homme se mortifie? Connaissez-vous le jeûne qui m'agrée, dit le Seigneur? C'est de rompre les chaînes injustes, dénouer les liens du joug, c'est partager sa nourriture avec l'affamé, héberger les malheureux sans asile, et vêtir les gens déguenillés. Voici donc le jeûne qui plaît au Seigneur, et comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des propos bien d'actualité. Voilà, je suis content parce que j'ai terminé même avant l'heure qui m'était impartie. Alors, vous avez donc des textes qui peuvent alimenter votre méditation personnelle. Ne vous sentez évidemment pas obligé de les lire, ou bien prenez-les à la manière d'un confetti ou à dose homéopathique, parce qu'il y a 16 pages, mais ça peut alimenter votre méditation, votre contemplation et votre prière pendant tout un temps. Voilà, donc maintenant nous allons chanter les textes, même si c'est un peu à l'avance, c'est pas grave, hein. Ce sera pas grave.